affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Académie. Abracadabra, c'est le sésame de notre enfance qui fait surgir des mondes imaginaires, le mot de passe qui nous transporte sur un tapis volant affranchi des contraintes de l'espace et du temps. Abracadabra, c'est aussi le titre du vaste projet littéraire de Patrick Deville, encore en cours d'exécution. Il se décline en 12 livres, dont 8 sont déjà parus. En 2021, l'écrivain voyageur a reçu le Grand Prix de littérature française de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Nous sommes heureux de le recevoir aujourd'hui. Bonjour Patrick Deville.
Bonjour.
Patrick Deville, quelle place tenait le livre dans votre enfance ?
Assez grande pour des raisons familiales d'une part. Mon père avait une bibliothèque. Et puis d'autre part, j'étais enfermé, enfin comme ma famille, à l'intérieur d'un hôpital psychiatrique qui était un ancien lazaret du 19e siècle pour marins infestés, à l'extrémité de l'estuaire de la Loire. Donc c'était un lieu d'enfermement. Et d'autre part, pour des raisons médicales, je suis resté très longtemps immobile et allongé dans une coquille de plâtre. Donc ne sachant plus trop quoi faire de moi ou me distraire, une tante institutrice m'a enseigné très vite à lire seul. Et le premier livre que j'ai lu seul, c'est donc ce tapis volant.
Avec cette formule magique.
Avec cette formule magique, je ne sais exactement par quelle perversion m'avait offert ce livre, puisqu'il s'agissait d'un enfant de mon âge, le petit Michel, qui lui disposait dans sa chambre d'un tapis à forme de planisphère, et avait la possibilité, en s'asseyant à un endroit du tapis, de prononcer cette formule magique abracadabra et de se retrouver téléporté, en quelque sorte, dans les jungles de la Floride, dans des villages africains, etc. C'est-à-dire exactement ce que moi, prisonnier du plâtre et du lazaret, je ne pouvais pas faire.
Ce que vous avez fait par la suite, parce que le planisphère, vous l'avez parcouru au cours de nombreux séjours, de nombreux voyages, et vous êtes lancé dans le cycle Abracadabra avec la publication de Pura Vida en 2004, mais ce n'était pas vos premiers écrits. Vous aviez déjà publié aux éditions de Minuit plusieurs romans. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur ces premières productions ?
En tout cas, ces lectures d'enfants, le tapis volant, mais ensuite, pour des raisons géographiques et également de proximité, Jules Verne, puisqu'il est nantais. Donc, très vite, le livre a tenu une place très importante et la décision d'essayer d'en écrire, de devenir écrivain, est réellement une décision d'enfant. Donc, lorsque j'ai commencé à écrire, je vivais au Moyen-Orient, mon but était d'être édité par les éditions de Minuit de Jérôme Lindon. Comme tout jeune écrivain, généralement, on se dirige vers le catalogue qui vous a le plus bouleversé, qui compte le plus. Et donc, j'ai commencé à publier aux éditions de Minuit en 1987. Et j'ai publié là 5 romans jusqu'à l'an 2000, qui était à la fois la fin du siècle et d'autre part, malheureusement, la mort de Jérôme Lindon. Mais depuis des années, tout en écrivant ces romans, qui sont des romans post-nouveau roman, c'est des romans Minuit tout de même, que je ne renie absolument pas. Le Seuil a décidé de les rééditer en un seul volume, ce sont des romans brefs. Et Irène Lindon a accepté que le titre en soit Minuit, tout simplement, de ces 5 brefs romans. Donc je ne renie absolument pas, mais en même temps je cherchais une autre forme, plus large, et qui me convainc mieux. Et j'ai donc changé d'éditeur et je suis arrivé aux éditions du Seuil, dans cette collection particulière, Fiction et compagnie. Et dans cette collection, je suis dans la compagnie, puisque Abracadabra, ce projet qui commence le 21 février 1997, qui est toujours en cours, ce sont des projets de romans sans fiction.
Et justement, c'est votre territoire, l'invention sans fiction. Quels en sont un peu les contours de ce territoire littéraire ?
Alors, ce qu'il y a de constant, il s'agit donc d'un projet de 12 livres. Comme vous l'avez rappelé, 8 ont à ce jour paru. 12 livres effectuant deux fois le tour du monde, une fois dans un sens et une deuxième fois dans l'autre. Et ces livres commencent tous en l'année 1860 jusqu'à aujourd'hui. Alors, c'est aujourd'hui glissant, bien sûr, puisque le premier, Pour la vida, qui est le roman centre-américain, commence le 21 février 1997 jusqu'à 2002, le présent du livre, le plus tardif, et Fénois qui vient de paraître. Ce sont des histoires polynésiennes jusqu'en décembre 2020. Donc il y a cette constante-là. D'autre part, en effet, sans fiction, c'est un peu réducteur, mais c'est-à-dire que je n'invente aucun personnage, aucun événement. Je ne décris jamais un lieu que je n'ai pas vu personnellement. Et l'invention, elle vient de la forme, de la construction, de la manière de construire ces romans qui ne sont pas faits au moule. Chacun a une forme très, très particulière. Ce premier tour du monde était de l'ouest vers l'est. Et dès le début, j'avais prévu que le sixième, celui du milieu, serait le français, Taba-Taba, qui est donc le plus autobiographique, qui est à la fois un tour de la France au volant pendant 2 ans, un tour du monde en avion autour de traces de la France un peu partout dans le monde, mais également un demi-tour sur moi-même, puisque là je remonte avec des archives familiales jusqu'à 1860, de manière assez patrilinéaire. J'écris ma vie avec mon père, la vie de mon père avec son père, et ainsi de suite, jusqu'au Second Empire français. Mais c'était aussi un demi-tour géographique pour repartir dans l'autre sens, de l'est vers l'ouest, pour un deuxième tour du monde.
C'est important, cette idée de demi-tour. On parle toujours de tour du monde. Pourquoi un demi-tour ?
J'avais prévu que le français serait le pivot, que les deux plus importants seraient le sixième et le douzième. Pour ce projet Abracadabra, il me reste 4 livres à écrire, mais sur lesquels je travaille, parce que, comme tout cela est prévu depuis plus de 20 ans, pour le cadre, je travaille sur tous ces livres un peu en même temps, mais ensuite je les écris un par un. Évidemment, il y a aussi beaucoup d'imprévus et c'est ça l'intérêt. Ça peut sembler très rigoureux comme cadre, mais au moment où je me mets à écrire le livre, je ne sais pas où en sera la situation historique, la situation politique, et puis également ma situation personnelle, parce que tous ces livres sont écrits à la première personne. Il y a un narrateur qui est un jeu, qui vieillit. Ça, c'était inévitablement prévu depuis le début. Mais enfin, dans le premier de cette série, Pour la vida, le narrateur est trentenaire, qui est donc au Nicaragua auprès des sandinistes, et le dernier, Fénois, en Polynésie. Le narrateur que je suis est déjà sexagénaire. Et donc, il y a aussi le vieillissement à la fois biologique, inévitablement, mais le vieillissement du lecteur, puisque entre-temps, ce sont des milliers d'autres livres lus, des milliers de nouvelles personnes rencontrées, et avec l'espoir que tout cela enrichisse, nourrisse le projet littéraire.
Le temps, c'est une donnée importante dans vos livres. Comment est-ce que vous l'intégrez ? Peut-être d'abord, quel est votre rapport à l'histoire ? Parce que vous parlez toujours de personnages historiques à l'origine.
Oui, de grands héros morts, également des salauds, mais aussi des gens rencontrés par hasard. Ça, c'est très important. Je me laisse dérouter. Je rencontre des gens par hasard dans des bistrots ou dans des rues. À côté de cela, il y a aussi un travail plus rationnel parce que je fais des entretiens. Alors cela, c'est une logistique. Je prends rendez-vous pour Kampuchea autour du procès des Khmer Rouges à Phnom Penh où je suis resté. Donc j'ai fait des allers-retours pendant les 3 ans du procès numéro 1 à Phnom Penh. J'ai rencontré des parties civiles, des avocats et puis des personnes impliquées ou lorsqu'on déterre pour la 3e fois depuis sa mort Savornian de Brazza à Alger, je suis allé demander à Monseigneur Tessier, l'archevêque, ce que les chrétiens en pensaient, ou bien dans le dernier Fénois, je prends rendez-vous avec l'amiral de la flotte à Tahiti et avec les responsables politiques indépendantistes. Ça, c'est plus organisé. Mais il y a aussi, heureusement, beaucoup de rencontres de hasard qui m'apportent beaucoup.
La recherche tient donc une part importante dans ce travail de préparation. Mais est-ce qu'à un moment donné, vous faites un pas de côté? Comment vous êtes libre par rapport à tout ce matériau? Comment est-ce que vous le traitez?
Dans le temps, c'est assez disproportionné parce que ce travail d'acquisition du matériau est un travail volontaire, rationnel, de multiples séjours. Enfin, pour écrire Viva le Mexicain, j'ai séjourné une ou deux fois par an à Mexico pendant 10 ans. Le temps, justement, de nouer des contacts, de rencontrer les écrivains vivants après avoir lu Les Grands Morts, mais de rencontrer aussi les commerçants de mon quartier, toujours dans le même quartier. Donc, ce temps-là est très long, c'est quelques années. Et puis, une fois que ce matériau est acquis, ou une fois que j'estime en avoir assez, mais dans tous les sens du terme, il y a le temps de la construction, qui dure quelques mois. C'est-à-dire, quoi faire avec ce fatras, comment construire le livre? Comme je le disais tout à l'heure, chacun de ces livres a une forme qui lui est propre. Et il y a ce temps de quelques mois de la construction, de l'invention de la construction. Et c'est là, si tout va bien, que ça devient de la littérature. Jusque-là, ça pourrait être de l'essai. Et puis, à la toute fin, il y a l'écriture, qui est brève, qui est de quelques mois, de 3 mois, en règle générale. Mais de la première à la dernière phrase. C'est-à-dire que je n'ai plus rien à aller chercher. J'ai la construction, j'ai le matériau, j'en ai la plupart du temps 3 fois trop. Et j'écris brusquement de la première à la dernière phrase en espérant que quelque chose échappe, que quelque chose jaillisse sous les doigts sur le clavier. Et encore une fois, si tout va bien, que ça devienne de la littérature.
Il y a donc une continuité, quelque chose même d'assez liquide d'une certaine façon dans cette écriture.
Je l'espère. Je l'espère. C'est pour cela que lorsqu'enfin je me mets à écrire, c'est-à-dire à peu près tous les 2 ans, j'écris 2-3 mois tous les 2 ans, mais sur des livres que je prépare depuis des années, et il y a donc à ce moment-là une grande exaltation qui est liée à la rétention, puisque je m'interdis d'écrire auparavant. Et lorsqu'enfin j'ai tout cela et que la construction est achevée, c'est avec une très très grande jubilation. Enfin, le premier jour où là je me dis que je commence à écrire la première phrase, où je m'isole, où je m'enferme et je travaille de manière continue, c'est dans un état d'exaltation très grand. Avec aussi des peines, hein. Il ne faut pas cacher que c'est parfois très difficile. Il y a des moments, comme dans toute composition, je crois, enfin, il y a des moments où ça bloque un peu, etc., où il faut forcer le chapitre à venir, mais tout de même dans un état un peu second.
Quel est le rôle de la contrainte dans ce travail? Parce que nous avons compris que vous donnez des constantes d'un livre à l'autre.
Oui, le rôle de la contrainte, c'est d'autoriser cette liberté. Tout ce cadre, ces déplacements géographiques inexorables depuis plus de 20 ans, prévus depuis plus de 20 ans, toutes ces contraintes-là, c'est ce qui, justement, permet au dernier moment, au moment de l'écriture, une absolue liberté.
Et la langue française, est-ce une contrainte ou une liberté? Vous non. Qui travaillez avec des auteurs étrangers, avec des traducteurs. Comment la voyez-vous?
Mais justement, ça, un livre d'entretien paraît là en même temps que le 8e, Fénois, parce que l'éditeur pensait que c'était le bon moment de revenir un peu sur... de présenter d'abord Abracadabra, et puis de faire un peu le point sur la manière dont je travaille et dont j'ai inventé cette forme. Je cherchais cette forme qui me permit de jouer de genres littéraires différents. C'est-à-dire que d'un chapitre à l'autre, j'ai la possibilité ainsi de passer d'un genre littéraire à un autre, avec là encore un plaisir extraordinaire. Mais le but, pour en venir à la langue française, enfin la raison d'être, c'est de jouer de la langue française, évidemment. Je n'écris qu'en français, je travaille dans d'autres langues, mais je n'écris qu'en français. Et avec... alors, oui, j'ai mis tout de même longtemps... Enfin, ça a été mon activité principale pendant longtemps avant de publier le premier roman chez Minuit, avec ce respect peut-être un peu trop... un peu trop sacré que j'avais de la littérature, et particulièrement de la langue française. Elle est très impressionnante, cette langue. Elle est impressionnante au regard de l'histoire de la littérature française. Ça n'est pas rien. Il faut beaucoup de culot, peut-être un peu d'inconscience, pour ajouter quelques phrases encore à cette langue. Mais le propre du... Justement, enfin, tout ce cadre un peu contraignant, c'est finalement pour évacuer cette histoire du sujet, comme le sujet en peinture, etc. Écrire est intransitif, mais encore faut-il écrire quelque chose, comme il faut peindre quelque chose. Mais on peut peindre la Sainte Victoire, sans être un géologue, le problème n'est pas là. On peut peindre comme Van Gogh des harengs sans s'intéresser à la vie des poissons, ou Gauguin, dont il est beaucoup question dans Fénois. Enfin, ce qu'il cherche, c'est de faire du Gauguin, voilà. C'est la peinture elle-même. Et pour un écrivain, c'est la littérature elle-même, et donc cette langue. Il s'agit en effet de jouer du français, de jouer de cette langue dans ce qu'elle a, dans tout ce qu'elle peut offrir de précision, de finesse, enfin la conjugaison, les temps des verbes. Là, il faudrait entrer dans le détail, mais enfin, c'est ça le plus important, davantage que le sujet.
Pour vous, la langue, c'est plus de la couleur ou de la musique ?
Non, c'est par rapport à d'autres arts, justement, comme la peinture ou la musique, la grande différence avec la littérature, c'est qu'elle ne montre que par le biais du langage. Alors, du langage de manière générale, mais en même temps, dans une langue, parce que ça, on ne peut pas écrire en langage. On écrit dans une langue particulière. Je suis très attentif à la traduction dans certaines langues. Je travaille assidûment avec certains de mes traducteurs et je vois bien les difficultés. Ce qu'il ne faut jamais oublier lorsqu'on lit une œuvre traduite en littérature, c'est qu'on ne lit pas l'œuvre, on lit une version possible de l'œuvre passée par la pratique d'un traducteur. Et je pensais justement principalement au temps des verbes. Dans le dernier, par exemple, ces livres sont écrits au passé. Le narrateur écrit à l'imparfait. Mais quand il y a des scènes, puisque j'écris beaucoup de vie et des scènes de vie du passé, elles sont la plupart du temps écrites au présent. Parce qu'on est dedans, tout en sachant que c'est passé depuis longtemps. Mais en même temps, dans ce présent, lorsque quelque chose va advenir après cet épisode au présent, je l'écris au futur antérieur. Et ce qu'il y a de particulier en français, c'est que dans la conjugaison, le futur antérieur est très souvent proche du conditionnel présent. Ça, c'est une particularité de la langue française. C'est-à-dire que le futur de cet événement que je décris devient à la fois certain, puisque moi, narrateur, je sais que ça va advenir, mais en même temps, pour celui qui est au présent à ce moment-là, devient incertain puisqu'il est conditionnel.
C'est le privilège du narrateur.
Oui.
Nous allons revenir à vos personnages, parce que quand vous les présentez, vous rentrez à la fois dans leur vie, dans les moindres détails de leur vie. On a parfois des extraits de lettres, de notes intimes. Et en même temps, on a l'impression que vous restez toujours à un certain seuil qu'on ne peut pas dépasser. On sent un grand respect. Est-ce que vous fixer certaines limites que vous ne pouvez pas dépasser ?
Oui, il y a deux choses. D'abord, il y a cette déontologie, ce rapport que j'ai avec mon lecteur. Je n'écris pas de fiction. Donc, je m'interdis absolument, il n'y a jamais de virgule, pensa-t-il, parce que je refuse absolument de placer dans la bouche ou le cerveau de l'un de ces personnages une phrase dont je n'ai pas la preuve qu'il l'a dite, pensée ou écrite. M'y refuse absolument.
Le fort intérieur.
Alors, mais on a accès à ce fort intérieur par les correspondances privées. On y a réellement accès. Mais au-delà d'une certaine limite, où je ne fais pas d'hypothétiques réflexions psychologiques, etc., si ça n'est pas avéré par quelque chose que ce personnage a dit ou écrit. Et d'autre part, l'autre point extrêmement important, me semble-t-il, dans ce rapport à tous ces personnages du passé, c'est d'éviter tout anachronisme. Je ne vois pas ces personnages avec le regard de cette année 2021. C'est ce qu'il y a de pire en ce moment. Enfin, il faut revenir à ce moment-là, imaginer ce que ces gens vivent, ce que ces gens connaissent et ignorent, évidemment, du futur. Et bien évidemment, s'interdire absolument tout jugement a posteriori sur une réalité inconnue de ce personnage. Ça, c'est la moindre des choses, c'est le plus grand respect qu'on peut avoir pour eux.
Est-ce que c'est pour cette raison que souvent nous trouvons des coïncidences de dates, d'actions de certains personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais pour nous replacer peut-être dans un contexte historique, vous aimez les concomitances?
Oui, c'est surtout un goût personnel pour les éphémérides. Et puis, une chance ou un travers que j'ai, chaque fois que je lis une date, je sais ce qu'il y a autour. Je sais ce qui se passe, enfin voilà, parce que... Et donc, très souvent dans ces livres, j'utilise ces éphémérides. Et puis, même si ces livres, enfin, du projet Abracadabra, peuvent être lus indépendamment les uns des autres et dans le désordre, c'est néanmoins destiné à constituer un livre unique de 12 tomes. Et donc, il y a beaucoup de personnages et d'événements qui reviennent dans ces livres sous un autre angle ou avec des compléments d'informations. Et donc, je traîne avec moi une petite bande depuis plus de 20 ans. Et je sais toujours où ils sont. Et même s'ils ne sont pas sur la page, c'est-à-dire s'ils ne sont pas... Et ils sont sur la scène, même s'ils ne sont pas... Parfois, ils viennent devant les feux de la rampe, ils retournent
hors champ,
dans l'ombre des coulisses. Mais ils sont toujours là. Et donc, il y a certains moments où je sais où se trouvent tous ces membres de ma petite bande depuis 1860. Voilà.
Vous nous parliez de date. Alors, que se passe-t-il en 1860 pour les membres de votre petite bande, comme vous le dites?
Elle se constitue ensuite. Hein. 1860, c'est l'année que j'ai choisi comme point de départ. Bon, ça aurait pu être 59 ou 61, mais au départ, voilà, je l'ai choisi ainsi, mais depuis, je m'entretiens tout de même assez régulièrement avec des historiens, et je sais que cette hypothèse tient la route, que quelque chose en 1860, dans cette deuxième révolution industrielle, quelque chose change en Europe, enfin dans trois pays d'Europe, quoi, l'Angleterre, la France et l'Allemagne. C'est le rail, c'est le charbon, c'est le navire à coque en fer, c'est la production industrielle et qu'il faut écouler cette production industrielle, ce qui entraîne les magnifiques histoires au début des explorations, parce que pour vendre ces produits, il faut cartographier la planète. Ce sont les courses entre les explorateurs français, allemands, anglais. Et tout cela amène évidemment ensuite à la colonisation, au méfait de la colonisation, et puis à cette espèce de premier suicide européen qu'est la Première Guerre mondiale. Donc c'est assez pertinent, parce qu'ensuite il y a les deux guerres, et je crois que nous sortons à peine de ce monde qui a été constitué en 1860.
D'un livre à l'autre, vous passez d'un territoire à l'autre. Est-ce important de démultiplier les points de vue, de ne pas avoir une seule focale sur le monde?
Oui, d'une part, mais bon, il faut bien voir que ce projet Abracadabra, c'est aussi du plaisir et c'est par goût. Ces 12 lieux du monde où j'effectue ces carottages d'un siècle et demi, deux siècles de profondeur, je les choisis parce qu'il y a un intérêt politique, historique, etc., mais aussi parce que j'ai le goût d'y séjourner longuement et j'ai la curiosité de savoir ce qui s'est passé là, puisqu'il n'est pas question en 12 livres et en 12 lieux du monde d'épuiser la planète, enfin malgré cette... Parce que c'est le début de la mondialisation, justement, 1860. C'est le début du moment où un événement, quelque part, ne peut plus ne pas avoir de conséquences ailleurs, quoi. Et puis ce rétrécissement très très grand de la planète. Souvent, je donne les durées de voyage, par exemple, à partir de l'Europe. Entre 1860 et, mettons, les années 30, voilà, la création d'Air France, c'est 1934, s'agissant de la Polynésie, par exemple, mais enfin de l'Asie aussi, la planète ne cesse de rétrécir, enfin en temps de voyage. Ouais. Mais c'est aussi du plaisir pour moi, et puis je l'espère pour le lecteur.
Que représente le voyage dans votre vie ?
Mais le voyage est la plupart du temps devenu extrêmement pénible, enfin n'a plus beaucoup d'intérêt. Le voyage, être quelque part, oui, voyage, enfin il n'y a rien de plus insupportable que les aéroports. Voilà, non, ce qu'il demeure, mais c'est assez rare et faible, mais enfin, ce sont des endroits où il est encore possible de voyager. Enfin, pour le roman précédent, Amazonia, donc, qui est le septième, qui est donc une traversée du sous-continent latino-américain de Belém au Brésil à l'embouchure de, enfin, près de l'embouchure de l'Amazone jusqu'aux îles Galapagos dans le Pacifique. Là, j'ai, avec mon fils, remonté le fleuve Amazone et puis les affluents de l'Amazone, puis la cordillère des Andes, etc. Alors là, oui, voyez, d'abord, j'ai un goût très très grand pour les voyages de navigation, et tout particulièrement la navigation sur les fleuves, où là en effet le voyage existe encore dans une cabine de navire et sur ces très grands fleuves. Il y a ce qu'il peut y avoir de plus beau dans la vie, c'est à la fois la chambre pascalienne, voilà, que tout le malheur
tout le
des
malheur
hommes
du monde vient du fait
vient
que les
de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et en même temps, avoir là sa bibliothèque et lire comme si nous étions dans cette chambre et travailler et voir par le hublot défiler la forêt amazonienne et les eaux du fleuve et les autres navires. Voilà, là, le voyage existe encore.
Vous parliez de la chambre de Pascal, il y a aussi la cabane de Fénoa. La solitude, c'est important.
Oui, alors pour chacun de ces livres, la forme est différente et le protocole aussi. Et pour le dernier, dont j'avais déjà séjourné en Polynésie, mais j'ai décidé de mener cette expérience à la fois de lecture et de solitude. J'ai donc loué pendant 3 mois, enfin je pensais rester 4 mois. Je suis rentré par les derniers vols au bout de 3 mois, pour les raisons qu'on sait. Mais le protocole était celui-ci. J'ai loué cette cabane avec devant quelques mètres de pente douce herbeuse, puis l'estran, les trous de crabes, etc., puis le lagon, c'est-à-dire à Punaouya, à quelques kilomètres au sud de Papeete, avec une bibliothèque que j'avais apportée et des livres que j'ai classés par ordre chronologique de leur écriture. Et je voulais passer du temps à lire ou relire tous ces livres dans une très grande solitude, en quittant très peu la cabane, enfin pour aller me ravitailler, évidemment, à l'hypermarché Carrefour de Papeete, mais de mener une expérience également de solitude et de fantôme. Enfin, les personnages des romans que je lisais ou relisais sont des fantômes, comme les personnes qui apparaissent sur les photographies. Et puis lorsqu'on est seul pendant très longtemps, enfin moi on côtoie de vivants et davantage les morts vous assaillent, mais mes propres morts, voilà, des gens autour de moi qui ont disparu, avec une porosité très grande qu'offre la solitude entre les rêves et la vie éveillée. Et avec un rythme de vie aussi particulier, c'est-à-dire que je me couchais comme les poules ou les crabes, dès la tombée du jour, que je me levais avant l'aube, parce que voir l'aube là-bas, le soleil se lever sur le lagon et la barrière de corail, c'est absolument magnifique. Donc un rythme de vie très, très particulier, et puis m'immerger complètement dans ses lectures, dans ses souvenirs, dans ses rêves, et construire le livre ainsi. Mais ça n'est pas le cas pour tous les livres. Pour Amazonia, d'abord, là, ce qu'il y avait de très particulier, c'est que j'ai, pour la première fois, je ne voyageais pas seul, mais avec mon fils. Et Amazonia, c'est une ligne, quoi, un déplacement géographique incessant, un peu l'inverse de Fénois.
Actuellement, vous êtes dans quelle phase sur le prochain livre ?
Mais là, bon, il se trouve que, depuis quelques années, je moissonne. Bah, j'ai entamé le travail sur ces livres depuis très longtemps, donc depuis plus de 20 ans. Et en ce moment, je publie à peu près tous les deux ans. Ça n'est pas une volonté, mais parce que voilà, j'en arrive à cela. Ce qui fait que tous les deux ans, je dois faire cette rentrée littéraire, c'est le cas en ce moment. Bon, qui est un moment qui est agréable aussi de rencontrer les lecteurs, de retrouver des lecteurs que j'ai vus il y a deux ans. Mais par contre, évidemment, c'est un moment pendant lequel je ne peux pas du tout travailler. Mais je vais donc quitter la France et repartir à la fin de l'année, quand j'en aurai fini.
Où ça ?
Le prochain, c'est l'Indien. Donc je vais retourner. Alors j'ai un peu de retard pour, là encore, bien sûr, ces histoires de pandémie. Je ne suis pas retourné en Inde depuis deux ans. Mais la situation actuelle fait que je devrais pouvoir repartir bientôt pour assez longtemps. Voilà.
Est-ce que vous pensez souvent à vos lecteurs ?
Oui, bien sûr. Oui. Enfin, c'est une question particulière, penser aux lecteurs. Au moment où on écrit, il y a ce qu'on appelle le lecteur idéal, enfin ce que le critique Gérard Genette appelait le lecteur idéal. Qui est finalement, depuis plus de 20 ans, le seul personnage de fiction que j'ai inventé, c'est ce lecteur idéal. C'est-à-dire ce lecteur que j'ai intériorisé et qui m'aide à me relire. J'écris pour ce lecteur, qui n'est personne, quoi, évidemment. C'est une idée, comme le nom l'indique. Mais par contre, comme je le disais, oui, tous les deux ans, je rencontre des lecteurs réels, que j'ai, pour certains, rencontrés deux ans plus tôt, puis deux ans plus tôt. Ça, c'est très riche, enfin, cette manière de dialogue tous les deux ans avec certains lecteurs dans les mêmes librairies ou dans les mêmes lieux, voilà, avec des discussions que nous reprenons, oui, c'est assez enrichissant.
Eh bien, un grand merci Patrick Deville de nous avoir partagé toutes ces années d'écriture. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes édité aux éditions De Minuit et puis pour ce grand cycle Abracadabra aux éditions du Seuil. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup.